Penser et agir en Asie.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
L'homme nazi ou la loi du sang.
Der Reichsführer SS Heinrich Himmler trifft
Heinrich Himmler déclare en 1938 la race. Voilà la pierre angulaire de tout le système. J'ai l'intention de chercher ce sang germain dans le monde entier, de le soustraire et de le voler où je peux.
L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 n'est pas un simple changement de pouvoir. C'est une véritable révolution et une révolution culturelle qui vise à remonter la pente que descendait le peuple germanique et à retrouver sa source, sa vraie nature. Selon les nazis, l'histoire a fait couler beaucoup trop de flots d'encre. Les prêtres et les pasteurs, ces rabbins déguisés, ont parlé du péché et de la liberté de le commettre ou pas. Les libéraux ont parlé de l'individu, les marxistes, de l'humanité. Il est temps que le sang commande à l'encre. Le sang sacré du peuple germanique, le sang unique critère du droit et de la morale. Car il y a un droit et une morale dans le nazisme. Mais un droit, comment dire, de la vie vivante du peuple germanique et une morale supérieure qui ne s'encombre pas des vieilles lunes universalistes ni de la responsabilité personnelle. Car la dureté que saura manifester le peuple germanique sera douce pour l'avenir de 1000 ans qu'il se prépare.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Johan Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Qui vient d'être élu professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous enseignez en allemand.
Oui.
Département d'études germaniques.
Absolument. Hein. J'ai cet honneur.
Alors, vous avez publié nombre de livres sur le nazisme. Le dernier, chez Gallimard, La loi du sang. On vous y voit disputant à la critique rongeuse des souris des centaines et des centaines d'articles, des centaines et des centaines d'ouvrages que vous êtes bien le seul de votre génération, au moins en France, à lire, imprimés en caractère gothique de surcroît.
Oui, une littérature grise, une littérature abandonnée qu'on n'a jamais prise au sérieux parce que quand on étudie le nazisme ou d'autres phénomènes violents comme le fascisme par exemple, on part du principe qu'on a affaire à des brutes et à des brutes aux cheveux ras et aux idées aussi peu épaisses que leur chevelure et que dès lors leur production intellectuelle est inexistante. Or, elle est une structure, cette production intellectuelle. Elle est peut-être parfois d'ailleurs une matrice aussi.
Ces historiens, il y en a, ces géographes, il y en a beaucoup, ces philosophes, allez, traitons-les de philosophes, ces médecins, ces juristes, traitons-les provisoirement de juristes, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils ont tenu leurs promesses.
Oui, ce que les nazis disent, ils le font et réciproquement. On discute beaucoup des rapports entre discours et pratique en histoire. Or là, on a un cas d'école, le discours correspond parfaitement à la pratique et inversement.
On va prendre des exemples que vous avez cité dans la loi du sang. Il était une fois une race germanique formée face à la glace et à la brise, à serrer les rangs et à durer par la fidélité et l'honneur. On les rencontre, par exemple, les exemplaires de cette race germanique chez les Groenlandais. Un certain Manfred Werner a publié « Nature et péché ». Ou bien chez les Islandais, un certain Wilhelm Vesper a publié « La race dure ».
Les deux auteurs que vous citez sont assez connus dans l'Allemagne des années 30. Le premier est un anthropologue qui étudie l'île du Groenland comme conservatoire, au fond, d'une race primitive germanique isolée sur son île, donc, précisément, et donc restée à l'abri de l'évangélisation, c'est-à-dire de l'acculturation par le christianisme, c'est-à-dire par le judaïsme. Il étudie les effets de l'évangélisation au XVIe, XVIIe siècle, et il montre que l'importation de l'idée de péché, d'où le titre de son livre, « Nature et péché », l'importation de l'idée de péché a créé le péché lui-même, a rendu les gens neurasthéniques et a conduit cette pauvre race groenlandaise à l'extinction. Quant à...
Ils ont dû quitter le grand tout du vivant.
Oui.
C'est... Quant aux Islandais ?
Quant aux Islandais, même chose. Comme les Groenlandais, ils ont dû quitter cette nature avec laquelle ils vivaient en harmonie organique. Ils ont été dénaturés par l'acculturation chrétienne et ils sont devenus des pauvres êtres sans nature et sans sol. Wilhelm Vesper, d'ailleurs, c'est un roman. Hein. Le premier ouvrage que vous citiez était un récit d'anthropologie, le deuxième est un roman. Wilhelm Vesper était un très grand responsable de la Chambre des écrivains du Reich et son fils a raconté son histoire. Son fils, d'ailleurs, a été l'amant de Gudrun Enslin, une histoire allemande assez intéressante.
Qui est Gudrun Ensslin?
Gudrun Ensslin, qui a été une des figures principales de la RAF, hein, de la fraction Armée Rouge.
Plus tard. Nos ennemis parlent de péché originel. Il faut retrouver la nature originelle. Ah, le bleu profond des lacs, les cabanes sous la frondaison des bois.
À quoi rêvent-elles, ces jeunes filles modernes? Sportives, désireuses de vivre utilement et sainement, elles ne songent pas aux futiles intrigues des héroïnes des vieux romans. Le besoin d'un changement total d'existence, d'un oubli du labeur quotidien, leur fait rechercher d'autres joies salutaires où le corps et l'esprit trouveront délassement et repos. En plein bois, cette cabane mystérieuse et accueillante offre aux citadines le plaisir assez rare d'un bain de vapeur. Le passage sous la douche froide amène une réaction salutaire. Un plongeon dans le lac, une courte séance de natation, voilà qui va faciliter la complète détente des nerfs. Cependant, le lac n'abrite pas les seules évolutions de ces charmantes naïades. Les canards y ont aussi droit de cité. Et, dans cet enchaînement d'anneaux olympiques, va se terminer au rythme lent des danseuses cette évocation d'une vie rayonnante de beauté, de force et de jeunesse qui a fait sienne la maxime de Juvénal, une âme saine dans un corps sain.
Si on en croit l'évocation des anneaux olympiques, on est peut-être en 1936. C'est un commentaire sur des images d'une Suisse allemande, Clarissa Patrick, de l'ineffable Marcel Laporte, dit Radiolo, qui n'a pas été seulement la première voix de l'horloge parlante. Il y a tout votre univers là, Johann Chapoutot. Juvénal, vous avez écrit une thèse sur l'utilisation de l'Antiquité par le nazisme. Les canards, c'est important, les canards sont les lacs, parce qu'il faut vivre avec les animaux.
Oui, et puis les lacs et les forêts. Alors cet extrait me fait un peu mal, puisque j'aime beaucoup les paysages de lacs et de forêts, et puis j'aime beaucoup la natation. Sauf qu'ici, on a une utilisation idéologique très claire, hein, de ces éléments-là. On a un contact direct des corps avec les éléments, un contact immédiat, c'est-à-dire sans médiation, un contact immédiat avec la nature, une communion du corps nu avec la nature, ce que les nazis prônent, parce que leur idée, l'idée de tous ces géographes, juristes, historiens, idéologues que vous citiez tout à l'heure, c'est que le corps de la race germanique a été retiré de son élément naturel, qu'on a construit une série de médiations entre lui et la nature. Les vêtements, par exemple, si vous portez des vêtements aujourd'hui dans ce studio, c'est parce que les juifs vous en ont donné l'injonction et l'ordre, figurez-vous, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous l'apprenez ici. Et donc là, avec ce retour au lac et ce retour à l'eau, on retrouve l'immédiateté de la communion organique avec la nature.
Et si vous regardez avec concupiscence une femme nue, c'est que vous avez été programmé par le regard juif de David.
Bien sûr,
sur Bethsabée.
C'est Bethsabée au bain. C'est toujours l'idée que vous citiez tout à l'heure avec ces pauvres Groenlandais. Dans la nature, le péché n'existe pas. Le péché naît avec l'idée de péché, cette idée perverse qui vient détraquer les consciences. C'est en voilant les corps, c'est en créant des médiations entre vous et la nature, entre vous et l'autre, que vous créez la concupiscence, que vous créez le désir. Et c'est là que vous créez le dérèglement des sens. Alors que si on est tous tout nus dans le lac, eh bien, on ne se regarde plus et on évolue dans sa prime origine, dans sa prime nudité, tel un enfant au berceau.
Continuons avant de parler des enfants au berceau, de parler de la femme convenablement, pudiquement. Il y a un programme de recherche que vous citez qui est absolument extraordinaire, qui s'est échelonné dans le plus grand secret sur 9 années et dont les archives sont maintenant conservées à Poznan. Alors c'est un programme lancé sur l'histoire de la persécution des femmes ariennes par le fanatisme chrétien à travers les siècles.
Alors, c'est une méthode nazie habituelle. On reprend des faits réels, en l'occurrence ici la persécution par l'Inquisition et puis par diverses autorités de femmes suspectées d'être sorcières, donc la chasse aux sorcières sur 2 siècles ou 3 siècles. On reprend ce fait historique avéré pour en donner une interprétation qui correspond au canon et au dogme de l'idéologie nazie. En l'occurrence, c'est un programme de recherche lancé par Himmler lui-même, donc le chef de la SS et le chef de la police allemande, futur ministre de l'Intérieur, qui pendant 9 ans, a financé cette opération de recherche secrète qui a employé des dizaines de chercheurs et d'auxiliaires qui ont dépouillé des sources absolument considérables, qui ont fait des fiches de plusieurs dizaines de pages à chaque fois sur 37 000 cas de femmes persécutées, torturées et tuées pour leur qualité supposée de sorcière. Et la conclusion qu'en induisaient les chercheurs nazis était que on avait visé les femmes rousses et blondes, gloire donc de la race germanique, pour commettre un génocide tout simplement. Et c'était une entreprise de l'Église, c'est-à-dire des Juifs, pour tuer la race germanique.
L'Église, c'est-à-dire les Juifs. Alors continuons à explorer quelques-uns de ces innombrables livres que vous avez lus en détail. Un certain Holzner publie La loi de Dieu. C'est un prêtre défroqué, retourné, qui va nous expliquer que le vrai Dieu, c'est la nature. Et c'est donc toujours un peu le même thème, le péché. La chasteté, par exemple, chez les prêtres et chez les moines, dissimule évidemment des horreurs qu'il faut dénoncer.
Il y a eu toute une série à partir de 1935 de ce qu'on appelle les Sittlichkeitsprozesse, des procès en moralité contre des institutions ecclésiales allemandes, monastères, paroisses, etc. Bon, c'était des abus que les nazis n'ont pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Maltraitance d'enfants, abus sur des enfants, etc. Enfin, des choses qu'on a connues ensuite, par la suite également. Et là, cela visait à discréditer l'Église en tant qu'institution et puis à montrer également que la culture judéo-chrétienne, avec un judéo souligné trois fois, était évidemment source non seulement de baisse de l'intensité démographique, mais également de violence contre d'innocents enfants. Et Albrecht Hartel, qui est le véritable nom de ce monsieur Holzner, est effectivement un prêtre défroqué qui connaissait bien l'Église de l'intérieur, qui avait été séminariste et prêtre, et qui ensuite a eu tout loisir d'en dénoncer les abus méphitiques et poussiéreux.
Alors avec la chasteté proclamée, l'homosexualité pratiquée, que d'occasions perdues pour la poursuite de la vie de la race. Heureusement que le nazisme sait en susciter de nouvelles en organisant des couples qui ne sont pas de hasard.
On a créé les foyers du Lebensborn. À savoir, offrir la possibilité pour des femmes ariennes, de bonne origine, de pouvoir accoucher secrètement. Helga Karau est née d'une de ces relations extra-conjugales. C'était le 23 mars 1941.
J'ai été conçue à l'occasion de la fête de la victoire de l'Allemagne sur la France. Les fonctionnaires des ministères avaient été gratifiés d'un congé spécial pour l'occasion. Et ma mère s'est rendue sur l'île d'Usedom, lieu de rencontre de l'élite nazie. Et c'est là qu'elle rencontra mon père pour la première fois. Lui avait fait le déplacement depuis Berlin ce jour-là. J'étais donc très clairement une enfant illégitime, née hors mariage. Et à l'époque, la meilleure façon d'accoucher pour une femme comme ma mère, c'était d'aller accoucher au Lebensborn.
Un extrait du film documentaire de 2013 de Romain Icard. Johann Chapoutot.
Un mot sur les Lebensborn. Ils ont été créés en 1936 par la SS pour être des foyers d'accueil des filles mères qui pourraient protégées de la médisance sociale qui pourraient accoucher de leur enfant illégitime. On en a fait des haras, ce qu'ils n'étaient pas du tout, même si, dans le contexte de la guerre, à partir de 1940, il y avait des ordres qui étaient donnés aux SS pour procréer le plus possible. Il fallait donner des enfants au Führer de bonne race. On a organisé des rencontres, certes, mais la quasi-totalité des enfants qui sont nés et qui ont été élevés dans les Lebensborn n'ont pas été procréés sur décret, si vous voulez. C'était généralement des enfants issus de relations extra-conjugales, encouragées, il est vrai, par la SS. Relations extra-conjugales qui, d'ailleurs, devaient trouver leur concrétisation juridique, puisque à l'été 1944, il y a un projet d'instaurer la polygamie dans le code civil allemand, puisque les hommes manquent en raison des morts de la Première et la Seconde Guerre mondiale.
La loi du sang qui va transformer, mettre cul par-dessus tête le droit traditionnel. Votre livre chez Gallimard commence par un grand chapitre, une grande première partie, procréer des berceaux. Nous allons passer à l'école qui nécessairement se tient au grand air et où on chante, alors vous enseignez en allemand, moi je ne saurais pas traduire la chanson des enfants des écoles de Berlin aussi bien que vous, elle va venir, mais nous avons deviné que des jeunes marchaient sous le soleil et la pluie et ils veulent garder pur, bien sûr, le sol et le sang allemand.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et la marche des enfants des écoles de Berlin, c'est en revenant, Johann Chapiteau, à l'enfance de la race, que la race produira des enfants sains.
Oui, il s'agit de revenir à la prime identité de la race germanique quand elle était encore fusionnelle, confondue avec elle-même et qu'elle n'était pas mélangée. D'où l'importance des dispositions de code civil, hein, les lois de Nuremberg, pas de mélange avec les allogènes.
Alors on va y venir aux lois, mais décrivez-nous d'abord comment était une école de la vie, une université de la vie, ça s'appelait ainsi, le camp d'été pour les enfants, pour les étudiants.
Quand vous parlez d'université de la vie, vous faites référence à un discours prononcé en 1936 lors de la rentrée solennelle de l'université de Iéna pour dire que avant le national-socialisme, l'université était mortifère, l'école était mortifère, on était confis en abstraction et en poussière, alors que désormais c'est la vie même qui va parler. Il y a un anti-intellectualisme féroce, hein, qui s'exprime là-dedans, qui est l'anti-intellectualisme du démagogue et du voyou assez classique, mais au-delà de ça, il y a également une véritable critique de la culture héritée qui a déformé les corps, qui a produit des crânes neufs, qui a produit de purs esprits qui avaient oublié leur vie, leur sang et leur corps. Et dès lors, il faut insuffler de la vie à l'enseignement, à la pratique juridique, à l'enseignement de toutes les matières d'ailleurs, par exemple du sport de combat obligatoire à l'université. On a l'exemple fameux de ce recteur Heidegger, Martin Heidegger, en survêtement assez ridicule, hein, vu son gabarit, qui fait quelques mouvements de gymnastique assez maladroits au milieu de ses étudiants, qui invite ses étudiants dans la forêt noire à Tottenauberg pour un camp de philosophie.
Alors il y a aussi des camps d'été pour les juristes. Alors vous en décrivez un tout à fait extraordinaire. On pend symboliquement à un arbre les articles inutiles et poussiéreux du code.
Et mieux que ça, on suspend une potence, le symbole même du paragraphe, vous savez, ce double S, ouais. Ce symbole typographique, pour montrer que quand on est juriste, en l'occurrence, il s'agit d'un camp de formation pour de futurs avocats qui, au lieu de réviser tout l'été leur code, sont invités à venir faire du sport, marcher dans la nature et peler des pommes de terre et balayer en commun pour créer une camaraderie des juristes du Reich. Pour montrer donc que la formation des juristes, désormais, l'économie de l'abstraction et du code. Désormais, dire le droit, cela passe par le pur instinct de la vie.
On va parler tout à l'heure de la modification du droit. Restons quand même un instant dans le bonheur éclatant que connaissent les enfants des écoles et les étudiants des universités, de marcher sous la pluie, de vivre sous un éclatant soleil, sous le regard des femmes ariennes. Ici, on ne résistera pas avec Jacques Sigal, vous passez un deuxième grand extrait de Radio Paris. Nous sommes avec deux speakers qu'hélas on ne peut pas identifier, qui s'émerveillent des réalisations pionnières de l'école nazie.
Nous vous avons parlé hier, mes chers auditeurs, dans ce cycle d'entretien sur l'aide à la famille, de l'œuvre des femmes socialistes allemandes. Nous vous avons expliqué que cette organisation visait à ressusciter l'antique tradition d'entraide, de voisinage, à établir une collaboration entre les femmes chargées de familles nombreuses et celles sans enfants qui ne demandent pas mieux que de prêter leur aide.
Mais cette œuvre des femmes national-socialistes ne se contente pas de ce travail. Elle se rend compte de la situation existant dans le foyer éprouvé et avise aux moyens de le secourir. Il existe en Allemagne une organisation que l'on appelle la prévoyance national-socialiste. Cette organisation a des écoles gardiennes où les enfants non encore en âge d'école y sont admis et reçoivent repas substantiels. La mère n'a alors qu'à y amener ses enfants le matin et à les y reprendre le soir. Ainsi, non seulement dans les écoles gardiennes, les enfants peuvent s'ébattre dans un large espace où l'air entre à flot, mais encore la mère peut alors librement vaquer à ses occupations.
En Allemagne, 200 000 écoles gardiennes existent déjà, et elles donnent déjà asile à plus de 700 000 enfants. On a organisé également des jardins d'enfants, de sorte que les mères, surchargées de travail, peuvent se débarrasser de leurs enfants pendant au moins quelques heures par jour.
Songeons à ces ouvriers français qui, pour organiser la grande relève, pour partir, pour remplir ce devoir sacré a été demandé par notre chef, se rendent en Allemagne participer à la construction de la nouvelle Europe et laissent pour la plupart une famille derrière eux. Cette famille doit être aidée, la mère doit être soulagée de ses soucis. Ne serait-ce pas une belle chose que de créer tout de suite ces jardins d'enfants, ces écoles gardiennes, première étape vers un meilleur avenir social de l'enfance?
Radio Paris. En fait, ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'il n'y a plus en Allemagne fédérale de politique d'école gardienne, de crèche et de garderie par réaction.
L'extrait que vous proposez est intéressant parce que c'est un extrait de guerre. L'idéal en 1933, c'est la mère au foyer, hein, la mère combattante sur le front de la natalité, sur le front du foyer, frappée d'interdictions professionnelles, etc. Sauf que, avec la guerre et la mobilisation de 18 millions d'hommes allemands, finalement, c'est le Troisième Reich qui a été le plus encourageant pour l'activité des femmes, contrairement à son programme. Et dès lors, on a créé ces crèches, on a créé ces écoles gardiennes, hein, ces écoles de garde, pour les enfants, pour permettre aux femmes de travailler et d'exercer les professions que les hommes n'exerçaient pas. Et effectivement, après la guerre, c'est les chrétiens démocrates sous Konrad Adenauer qui ont réalisé véritablement le projet nazi de natalité et de mère au foyer, puisque les crèches ont disparu et l'Allemagne accuse un retard terrible.
Je ne vais pas vous laisser descendre cette pente. Alors, dans votre livre, une partie combattre. Mais nous, on s'intéresse à la première partie de la loi du sang chez Gallimard, la partie procréer. Et on va revenir à 33-35 parce que le soin jaloux des naissances, dont vous avez dit que c'est un souci des nazis, fait aussi limiter le droit de naître pour un certain nombre de personnes et le droit de procréer pour 400 000 citoyens qui vont être stérilisés en 12 ans.
Oui, la stérilisation obligatoire pour les malades dits héréditaires est une solution qui est prônée dans d'autres pays que dans l'Allemagne, qu'en Allemagne. Ça existe déjà en Suède à l'époque, ça existe déjà aux États-Unis, dans plusieurs États, ça existe déjà en Suisse. Mais par contre, ce programme de stérilisation obligatoire va être mis en œuvre avec une systématicité inégalée dans l'Allemagne nazie dès 1933, avec la création par la loi du 14 juillet 1933. Le 14 juillet a été choisi à dessein, hein, puisque 33 combat 1789. La loi du 14 juillet 1933, donc, crée ces tribunaux de santé héréditaires composés de deux médecins et d'un membre de la police ou de la SS qui statuent sur la castration chimique ou organique obligatoire des malades.
Qui osera dire qu'il n'y a pas de droit nazi? Parce que quand il y a des tribunaux de santé héréditaire, il y a des cours d'appel.
Oui.
De santé héréditaire.
Sachant que, au fil du temps, on ne donne plus la possibilité d'interjeter appel. Mais c'est vrai que formellement, on respecte les procédures, on crée des cours, on a des avocats. Bref, on respecte toute la scénarisation du droit et le formalisme du droit pour montrer que cette biologie appliquée, puisque les nazis disaient que le nazisme était une biologie appliquée, pour montrer donc que cette science de la race appliquée était une obéissance inconditionnelle aux lois de la nature, mais qui respectait les formes vénérables et antiques du droit.
Et stérilisée ensuite, loi de Nuremberg 1935, vont être interdits de mariage avec des Aryennes. Les Juifs vont voir leur possibilité de mariage aussi limitée. Tout choix d'époux contraire à la race doit être considéré comme un viol de l'ordre vital de notre peuple. Et puisque chaque fois qu'on passe un extrait de Radio Paris, vous trouvez ça intéressant, voici un individu, pianiste distingué, interprète notamment de Bach et de Debussy, compositeur et organiste, habitué de Barbizon, qui parle au micro de la radio collaborationniste. Il s'appelle Walter Rummel.
Avant que vous aurez décidé de faire un nettoyage sans pitié, sans distinction d'influence, je crains que la chère France sera toujours trahie par cette mafia qui était là, trop en liberté, et qui empêchera toujours le relèvement de votre pays. La jeunesse devrait agir, et agir avec l'idéal de purifier la belle terre de France, de ses déchets, d'humanité qui se croit en liberté d'agir si peu scrupuleusement. Je suis persuadé que cette jeunesse prendra bientôt le nettoyage en ses mains pures et actives. En tous les cas, je suis convaincu que, comme toujours, la lumière viendra de l'Est, de l'Orient, et je crois que la France devrait jeter son regard vers l'Est avec confiance et avec espoir.
Enfin, pas trop loin à l'Est, parce qu'à l'Est, il y a les Grecs, les Romains, les Juifs, la peste, les rats, etc. Qu'est-ce que c'est les vies inutiles ?
Les vies inutiles ou les vies indignes d'être vécues.
Hein, les déchets.
C'est une catégorie juridique qui a été forgée par les juristes à partir de 1933. Ce sont des vies malades qui doivent être exclues par prophylaxie de la procréation, donc par la stérilisation, voire à partir de 1939, dans le cadre de l'opération T4, qui doivent être éliminées physiquement pour ne plus être un boulet, une charge pour l'État. Là, ici, on a l'exemple typique d'un artiste francophile qui, de manière complaisante et condescendante, conseille à la France un nettoyage sans pitié et radical, je cite, hein, on a bien cette rhétorique nazie de la radicalité, nettoyage de ces déchets d'humanité. Là, il parle évidemment des malades, mais il parle également de ces juifs, mais également, je cite Hitler, de ces nègres qui ont fait dégénérer la France.
À ceux qui s'étonnent que les nazis, parfois végétariens, aiment les animaux, il faut quand même dire qu'il y a aussi des vies inutiles chez les animaux. Vous consacrez une réflexion à ce sujet.
Oui, les caniches, par exemple, ces animaux dégénérés, c'est-à-dire littéralement qui ont été déchus de leur génos, déchus de leur race, par opposition aux fauves qui, eux, sont restés fidèles à leur nature. Il y a dans cette opposition entre le caniche et le fauve, qui est thématisée dans le Troisième Reich, toujours cette fascination sociale darwinienne pour une conception zoologique de l'histoire et de l'humanité. Le fauve, c'est le germain qui est resté fidèle au sens de la nature et du combat. Le caniche, eh bien, c'est l'homme d'esprit civilisé, l'homosexuel, c'est celui qui a rompu avec la nature, qui est devenu une fleur de bitume, comme on le dit à l'époque, sans plus aucun rapport ni avec son sol, ni avec son sang.
Les vies inutiles, votre livre La loi du sang s'ouvre par l'histoire du procès qui a été intenté après-guerre aux médecins de l'hôpital pédiatrique de Rottensbergsort. C'est un quartier de Hambourg. Ils étaient 18 médecins. Ils ont laissé tuer une petite soixantaine d'enfants considérés comme malades. Ils les ont même traités avec des injections létales. Quand le procès intervient, ils vont finalement être l'objet d'un non-lieu. Ils ne voient vraiment pas, eux, non plus que d'autres nazis, bien plus criminels encore, en quoi ils ont une responsabilité. Ils se sont appliqués à appliquer tranquillement un droit monstrueux. Un droit.
Un droit qu'ils avaient le droit d'appliquer, qu'ils avaient pleinement la légitimité d'appliquer, tout simplement parce que c'était la science du temps. Il faut bien voir que les nazis ne sont pas du tout un ovni hors sol. Ce sont des gens qui sont bien de leur temps et de leur époque, c'est-à-dire l'Occident post-social darwinien, l'Occident raciste et passionné de médecine depuis les années 1850. Ce programme scientiste-là a été mené à bien par le Troisième Reich de manière implacable. Et ce qui est intéressant dans les procès que vous citez, en 1949 comme au début des années 60, c'est qu'on a deux instances normatives face à face. On a les médecins qui ont décidé de la vie et de la mort des gens et qui ont tué en pleine bonne conscience, en pleine légitimité. Et face à eux, on a des juristes, des magistrats qui accèdent à l'argumentation des médecins. Les médecins disent « Vous nous inculpez de crimes contre l'humanité, mais ce que les êtres que nous traitions n'étaient pas des êtres humains. Fermez le banc, les juges rendent un non-lieu. »
La responsabilité personnelle dans le droit nazi, puisqu'il y a un droit nazi, n'est plus du tout au centre, elle est même écartée. S'il y a bien une invention du judaïsme et du christianisme, c'est la responsabilité personnelle. Votre livre « La loi du sang », Johann Chapoutot, « Penser et agir en nazi ». L'émission a été préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Lucas Vaillant. La réalisation, c'est Jacques Cigale.